Toyota Cowansville est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cowansvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cowansville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
Le Guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage.
Cette semaine, un mini bilan des constructeurs, ben puisqu'il s'agit de mini. Une division de BMW qui, contre toute attente, passe à travers des époques où la mode rétro est en déclin. C'est-à-dire que la mini a été lancée en 2002, au moment où, bon, il y avait la Beetle qui avait été lancée, il y a la Thunderbird, le Chevrolet SSR, le PT Cruiser, un paquet de modèles à saveur rétro qui ont été lancés tous en même temps. Et il n'y a rien de ça qui a survécu.
Ouais.
Mais la Mini, oui.
Oui.
On a réussi à trouver une formule à succès chez Mini pour faire perdurer ce look rétro qu'on ne considère plus aujourd'hui comme un look rétro, puisque ça fait partie de l'image de marque depuis maintenant 24 ans.
Oui.
Et c'est intéressant de voir ça parce que, bon, évidemment, la marque s'est transformée depuis l'arrivée en 2002. Là. À l'époque, il y avait juste une Cooper 3 portes.
Oui, oui, c'est ça. Mais maintenant, on remplit beaucoup de besoins. Là.
Qu'on trouvait grosse à l'époque par rapport à la Mini. Et permets-moi de te dire que si tu prends une Mini 2002 puis que tu la mets à côté d'une 2024, tu vas la trouver très petite.
Oui.
Mais n'empêche, Mini est une division de BMW qui est importante pour le constructeur bavarois. C'est pas des chiffres affriolants. On en vend énormément du côté de l'Europe, et vous aurez compris pourquoi, parce que le format est assez compact.
Bon,
Mini est une marque qui est en plein renouvellement. On a essayé plein de trucs. On s'est permis d'essayer des trucs.
Oui.
La Paceman.
Le Speedster. Tu te souviens du Speedster avec le design de ils avaient placé la casquette à l'envers. La casquette, ils avaient placé.
Le Mini Coupé, le Roadster.
Ouais.
On a essayé un paquet de trucs. Encore à ce jour, j'ai envie de te dire que la Cooper 5 portes, c'est la plus laide de toutes. Ah, moi, l'espèce de cadre de fenestration mal adaptée là-dessus, je suis pas capable. Mais sinon, de façon générale, je suis obligé de te dire que les designs sont une totale réussite.
Fidèle à la marque tout le long, à part certaines exceptions. Là,
puis, je trouve ça dommage qu'on ait abandonné la Clubman récemment, qui pour moi était vraiment une voiture le fun. D'ailleurs, bon, évidemment, on a vendu les derniers exemplaires en 2022, puis ça s'est terminé là. Mais reste encore la Cooper 3 portes. Il y a encore de la manuelle pour très, très peu de temps. Disparu, c'est revenu. Là, je pense qu'après ça, c'est terminé. La Cooper S, John Cooper Works, c'est encore là. Puis évidemment, plus le temps avance, plus les... Je ne peux pas appeler ça des VUS, là, mais parce que j'aime ça. Moi, ils catégorisent ça comme des light trucks.
Oui, dans les
normes. Ben oui, mais c'est une fois pour les mêmes raisons de normes de consommation.
Bon, des
Countryman, bon, j'ai pu conduire le dernier Countryman là, il y a quelques semaines du côté de l'Europe. Puis oui, il a grossi, il est plus gros, il est plus lourd. C'est un BMW X1 avec une autre carrosserie, mais difficile de qualifier ça de camion. Enfin, bref, on va conserver tout ça, mais là, on s'en vient avec beaucoup d'électrique.
Ouais.
La Aceman, qui va être à mi-chemin entre une Cooper et un Countryman, donc peut-être juste un peu plus petit que l'ancien Countryman, c'est pas trop clair. La nouvelle Cooper qui va être dans du tout électrique, mais cette fois avec une autonomie beaucoup plus sérieuse.
Ouais.
Le cabriolet va demeurer. Bref, tu sais, on essaie de faire perdurer cette marque-là, de lui garder une image qui est cool, de mettre des jouets funky à l'intérieur, une présentation qui est très unique.
S'il y a bien une marque qui peut bien réussir le tournant électrique, c'est Mini. Parce qu'on a un format qui est bon. On a l'occasion de montrer tout ce que BMW peut faire en termes d'agrément de conduite dans cette marque-là. Puis là, c'est connu, Mini. On les achète parce qu'elles sont agréables à conduire. D'autres raisons, mais moi, personnellement, je les apprécie particulièrement pour ça. Puis aussi, comme tu dis, d'innover avec des gadgets comme le nouveau système d'infodivertissement, le nouvel écran à l'intérieur. Ouais. Quand même, loadée, là, si vous me permettez de l'expression, de toutes sortes de petites affaires, de petits chiens qui bougent dedans, puis tous les personnages, etc. C'est vraiment, vraiment novateur quand même.
Puis c'est surtout que si tu avais mis ça dans une Chevrolet ou dans une Honda,
on l'aurait pas pris au sérieux.
On aurait trouvé ça quétaine.
Ouais.
Mais dans une Mini, c'est cool.
C'est ça.
Ils ont
fait cette... ça long à dire pour, sur la marque, fait sa réputation.
C'est un aspect qui est intéressant. Maintenant, Mini a eu des années difficiles au Canada. Là, on est en pente ascendante. Il y a eu des augmentations de ventes de 17,5% l'année passée par rapport à 2022. 4415 voitures ont été vendues chez Mini Canada contre 33497 aux États-Unis. Normalement, là, le ratio, c'est du 10 pour 1.
C'est ça.
Là, on est dans du 8 pour 1.
Mm-hmm.
Alors, le Canada aime les Mini par rapport aux Américains. Est-ce qu'on est surpris? Non, c'est
pas
certainement
tout.
Pas. C'est certainement pas aux États-Unis qu'on va vendre la Mini 3 portes en grande quantité.
Non.
mais j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de cette nouvelle Mini électrique, si le prix est bon, que l'autonomie est intéressante, ça pourrait connaître du succès.
Mmh.
Je crois au succès de cette future Mini électrique et au succès de la future Aceman qui sera aussi 100% électrique, comme je crois au succès de la Fiat 500. Puis la Fiat 500, évidemment, ça demeure une citadine, mais qui a sa pertinence sur notre marché. C'est la 500E, exactement. C'est vraiment une voiture qui a sa place sur le marché, qui n'a pas d'équivalent. Et si elle est capable d'être fiable, elle pourrait connaître un succès intéressant. Tire-toi pas là-dessus, on n'a pas le temps. Mais bref, alors Mini, j'ai très hâte de voir ce qu'on va faire.
Oui.
Sauf que là, avec l'arrivée d'un Countryman électrique, de la Aceman et des Cooper électriques, ça va changer évidemment la donne sur ça. Et on ne tire pas un trait sur les modèles à combustion en passant.
Non,
BMW est un constructeur qui croit énormément aux technologies diverses. On conserve des moteurs diesel du côté de l'Europe dans les Mini.
Comme plusieurs constructeurs, on avait annoncé ça dans 2020-2021, qu'on a des plans de retirer la plug sur les véhicules à essence. Mais maintenant, je pense que comme les autres, Mini s'est révisé. On a quand même beaucoup de choix dans notre catalogue de moteurs. On peut faire quelque chose d'efficace, qui répond à des besoins, puis aussi qui demeure abordable tout en étant plaisant à conduire.
Bien, abordable, toute chose étant relative. Parce que
il faut attendre pour voir c'est quoi que ça va être.
Abordable pour Louis-Philippe, là. Bon, c'est ça.
On s'excuse.
Bon. Alors, tu sais, puis c'est des voitures amusantes à conduire.
Ah oui.
Ça demeure un fer de lance chez Mini. C'est aussi le cas de la voiture que j'ai mis à l'essai cette semaine, moi qui est roi de la transition.
Oui.
On parle de la Mazda MX-5 2024.
Oui.
Puis là, tu vas me dire, OK, c'est la même auto que l'année passée, puis on met un plus gros écran. Attends un peu. On a pu mettre cette voiture-là à l'essai dans le Angeles Forest.
Une route que j'aime bien.
Bon, alors une route extraordinaire en périphérie de Los Angeles, dans les montagnes. Et avant de prendre le volant de la nouvelle MX-5, parce qu'il faut savoir que c'est un modèle 2024, mais il n'est pas encore chez les concessionnaires. Là. C'est encore quelques semaines avant que ça arrive. Eux ont retravaillé la direction, le différentiel de la voiture, oui, l'écran central pour qu'il soit tactile en mouvement, bon, etc. Là. Mais les ingénieurs, ce qu'ils m'ont dit là-bas, c'est on n'a pas touché au châssis, on n'a aucunement touché aux suspensions parce qu'on considère que la suspension est parfaite sur cette voiture-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'a pas réétudié, mais ils sont arrivés à la conclusion que la suspension faisait un boulot impeccable.
Je n'ai pas le choix d'être d'accord avec eux, moi.
J'aime ça.
Cependant, le défaut de cette voiture-là, selon eux, c'était un manque de précision de la direction. Puis écoute, moi, c'est un modèle en la matière de précision de direction.
J'ai pas le choix de te dire que
j'ai pris le volant de la MX-5 24 et je connaissais très bien les modèles des années antérieures pour te dire que ça répond tellement vite que j'étais déstabilisé. Il y a un écart considérable entre un 2023 et un 2024 au niveau de la précision de la direction puis du cercle de braquage parce que la voiture répond encore plus rapidement.
Okay.
Et le génie de ce qu'on a fait avec le différentiel arrière, évidemment, c'est un différentiel autobloquant, mais progressif des deux côtés. Ce qui veut dire que tu as besoin d'un appui en virage, ben ça sera pas on-off au niveau du transfert de couple sur l'essieu arrière. Ça va se faire de façon progressive à l'entrée de virage, à la sortie de virage. Alors, imagine-toi la distribution de couple constamment gérée comme ça pour que tu aies toujours la le parfait appui, puis la puissance parfaitement gérée quand la voiture n'est pas en ligne droite, essentiellement. J'ai trouvé ça fantastique. Ça fait une grosse différence. Ils ont changé le pignon du différentiel central, différentiel arrière, pour aller mettre un embrayage qui est sur le dessus du pignon avec des dents. C'est tout petit comme mécanisme, mais honnêtement, ça fait un travail extraordinaire. Et chapeau à ça, parce que ça change l'expérience de conduite.
Est-ce que cette technologie-là, avec le différentiel, tu as trouvé la voiture plus facile à conduire? Pas facile. Est-ce qu'elle mordait moins, mettons, là, quand tu la poussais?
En fait, l'autre truc qu'on a ajouté, c'est c'est-à-dire qu'on a un mode de contrôle dynamique de stabilité qu'on peut mettre en mode race.
Ah, OK, comme progressif lui aussi.
Donc, là, c'est pas complètement désactivé ou full on.
C'est plus tolérant.
Il y en a un qui est très tolérant. Ben, je te dirais que moi, je l'ai mis en fonction tout le long. Puis des fois, là, la partie arrière glissait un peu, puis j'ai jamais senti que ça me freinait. Mm-hmm. Fait que c'est aussi un truc qui est bien géré. On a peaufiné la machine. Puis évidemment, moi, j'ai levé la main, j'ai fait le 35e anniversaire arrive bientôt. Allez-vous sortir de belles éditions, là, bleu, blanc, rouge, comme les premiers modèles? Et puis, ce qu'ils nous ont répondu, c'est on rêve d'une version vert forêt, British Racing Green. On fait la demande depuis des années. Le Japon veut pas, mais ça se bat énormément. Donc, attendez-vous à une édition spéciale avec l'année prochaine. Ça serait magnifique. Ça serait magnifique.
Quand je faisais le Salon de Genève dans les années 90, on n'avait pas ce modèle-là en France et elle était disponible en Suisse. Je pouvais passer une heure dans la bagnole au Salon de Genève en vert British Racing Green, intérieur TAN, puis t'es comme... C'est parfait.
Ah oui.
Et je vais t'inviter chez nous, que j'en ai une dans le garage, une 91. Ah. C'est pas que je veux t'écœurer, mais en tout cas...
Non, tu m'écœures pas du tout.
Ouais. Et les versions canadiennes, soit dit en passant, avaient cet avantage de ne pas avoir de sac gonflable, donc cet horrible volant qu'on avait aux États-Unis, mais qu'on n'avait pas chez nous. Deuxième voiture que j'ai mis à l'essai, parce qu'il faut faire vite. Là, on change de registre. Un peu moins passionnant à conduire, mais ils ont quand même...
Tu veux parler de son différentiel aussi?
Non, je ne t'en parle pas.
C'est un meter de taxi, plus que...
C'est ça. Toyota Camry 2025. Je vous en parle parce que c'est un segment de véhicule qui est sur son déclin. Là, on s'entend. Là, au Canada, les berlines intermédiaires ne se vendent plus.
Ouais.
Juste pour vous donner une idée. 290 000 Camry ont été vendus aux États-Unis l'année passée, 8 500 au Canada.
Wow!
Ouais.
Ça représente moins de 3 % des ventes nord-américaines. Attendez, la Camry, c'est de loin la plus vendue de son segment. Ce qui veut dire que les Sonata, les Altima, les Accord, les Malibu,
les Legacy,
plus personne qui achète ça. Mmh. Tout le monde se dirige, au Canada du moins, soit vers des VUS, forcément, soit des voitures compactes qui ne le sont plus vraiment, parce qu'elles sont presque rendues des intermédiaires quand tu regardes la nouvelle Elantra, par exemple. Ouais. Ou on s'en va carrément dans des marques de luxe, là, BM Série 3, Audi A4, ce genre de trucs-là. Mais la berline standard intermédiaire à l'américaine connaît beaucoup moins de succès chez nous qu'aux États-Unis, où elle a encore la cote, parce qu'aux États-Unis, on vend le même nombre d'Accord que de Civic. Chez nous, c'est
ça a rien à voir.
8 fois plus de Civic. Alors, tu sais, c'est complètement un autre marché.
Ouais.
Mais la Camry a ce gros avantage à partir de 2025 d'être à la fois exclusivement hybride et d'offrir le rouage intégral. Et tenez-vous bien, si vous prenez une Camry de base à roue motrice avant, ça consomme moins qu'une Prius. On est rendu là. On est à 4,6 litres au 100 de moyenne combinée pour une Toyota Camry qui fait 225 chevaux, 232 avec le rouage intégral, parce qu'à ce moment-là, tu as deux petits moteurs électriques, un sur chaque essieu plutôt qu'un seul. Et si tu prends la Camry XSE 4 roues motrices avec les plus grandes roues, tu es à 5,3 litres au 100, ce qui est la même cote de consommation qu'une Accord hybride traction.
Ouais.
Donc, on l'a, mais complètement. Hey, on a retravaillé la carrosserie. Je ne peux pas dire qu'on a réinventé le bouton en 4 trous avec ça. Là. c'est design, c'est Toyota, très évolutif. À bord, c'est plus confortable, c'est un peu mieux sonorisé. Première fois qu'on peut avoir un toit panoramique sur une Camry, quel petit gadget, les écrans qui sont plus modernes, tu auras compris. La formule, mais c'est essentiellement la même voiture qu'avant, les mêmes dimensions intérieures, un peu plus de confort, suspension qui a été retravaillée, donc beaucoup moins de roulis qu'avant, mais ça n'en fait pas une voiture passionnante à conduire pour autant, mais juste plus équilibrée, avec un meilleur sentiment de sécurité. Puis là, je ne vous parle pas du Safety Sense 3.0, tous les gadgets que ça implique.
Ils sont tous là.
Ils sont tous là. Mais au niveau de la conduite, c'est moins instable. T'sais, on a moins de tangage en vie. La voiture se conduit plus facilement. Elle est moins... Tu sais, c'était pas stressant à conduire une Camry dans le passé, mais non. Là, c'est une voiture très facile. Mm-hmm. Le mot d'ordre, c'est équilibre avec cette voiture-là, mais de pouvoir rouler à 5 litres au 100. Tu viens d'éclipser la compétition, mais complètement, puis je pense que ça, c'est le tour de force. Forcément que le prix est plus élevé. Là, ça, en excluant les frais de transport préparation, tu pars à 34 300 pour une SE traction. Mmh. Puis tu te rends jusqu'à 45 000 pour une XLE 4 roues motrices. Donc, à 45 000, tu as la version la plus équipée. Ce qui est le cas aussi chez Honda avec l'Accord, mais l'Accord est à 2 roues motrices, alors que Toyota a le 4 roues motrices. Et tu ne peux pas, chez personne d'autre, combiner hybride et 4 roues motrices. Accord et Sonata sont offertes avec hybride, mais c'est du traction seulement. Et si tu veux une Sonata 4 roues motrices, oui, ça existe, mais pas en hybride. Donc, on a ce gros avantage-là chez Toyota, puis je pense que ça va connaître beaucoup de succès. Oui, notamment avec les chauffeurs de taxi.
C'est bon.
Alors, merci tout le monde d'avoir été là. De retour la semaine prochaine. On parlera la semaine prochaine du Land Cruiser de Toyota que j'ai pu mettre à l'essai aussi.
Ouais,
et toi, levé d'embargo sur...
Le Macan électrique.
Le Porsche Macan électrique.
Oui.
Tu as essayé aussi un bateau chez Porsche?
Oui, un bateau qui a le même groupe motopropulseur que le Macan électrique. Donc ça, c'est un petit complément à mon essai pour la semaine prochaine.
Louis-Philippe Dubé, chroniqueur nautique. Merci d'avoir été avec nous.
Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cul.ca.